À 18h20, c'est l'interview politique et je reçois le député LFI et NUPES du Val d'Oise. Bonsoir Carlos Martins Bilango.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct. Mardi, vous irez vous aussi défiler contre la réforme des retraites?
Bien entendu, je serai déjà à 7h du matin avec les employés qui sont bagagistes à l'aéroport Charles de Gaulle.
Mm-hmm.
Et ensuite, je serai à Paris.
Vous serez dans un cortège spécifique? Vous allez rejoindre un syndicat en particulier?
Non, je ne serai pas le cortège spécifique avec les parlementaires et j'irai saluer tous les syndicats présents.
Donc vous voulez bordéliser le pays, comme dit Gérald Darmanin?
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du ministre de l'Intérieur?
Je ne comprends pas. Je pense que c'est juste une attaque vers ses opposants politiques. On cherche à décrédibiliser le mouvement. Mais il faut savoir que l'intersyndicale est réunie dans une manière très large. De nombreux Français et Françaises sont prêts à aller marcher le 31, l'ont déjà fait le 19, l'ont fait le 21. Il y a une colère qui monte dans le pays. 80% des Français sont contre cette réforme des retraites. Les différents porte-paroles du gouvernement...
70 plutôt que 80.
Les différents porte-paroles du gouvernement, plus ils en parlent de leur retraite, plus ils la défendent, plus elle est détestée. Et aujourd'hui, encore une fois, on vient avoir des propos abjects.
Le texte est en commission dès demain. Il arrive le 6 février en Conseil des ministres. À ce stade, on a 3345 amendements déposés par la France insoumise. Pardonnez-moi, c'est du travail parlementaire ou c'est de l'obstruction?
Travail parlementaire, obstruction parlementaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est un travail, oui.
Donc c'est de l'obstruction, vous le dites vous-même.
C'est du travail parlementaire.
Parce qu'il n'y a pas le choix.
Non, chacun peut l'appeler comme il le veut.
Oui.
Vous savez, le 49.3...
Comment vous l'appelez-vous?
Nous, le 49.3, je l'appelle... un élément anticonstitutionnel. Mais il est dans la Constitution. Ça fait
pour
partie
vous,
du parlementaire.
Il ne devrait pas être dans la Constitution. Si, ça ne devrait pas exister.
Il y est pour l'instant.
Oui, mais
nous voulons aller vers la 6ème
République.
Vous
dites qu'il est anticonstitutionnel. Donc vous trouvez qu'il ne devrait pas avoir sa place dans la Constitution.
Dans la 6ème République.
Voulu par Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, voulu souhaité par beaucoup de monde également.
Par
nous
vous aussi.
Nous ne souhaitons plus avoir de 49.3. Nous souhaitons débattre. Et aujourd'hui, par rapport à ces amendements que nous avons déposés, c'est pour amener le débat.
Pour l'instant, il n'est pas question d'utiliser un 49.3. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il va y avoir un 47.1 qui diminue,
exactement.
Qui diminue
exactement.
La durée des débats.
Exactement. Un 47.1 qui diminue la durée des débats. Et nous, on veut débattre. Donc, on a mis de nombreux amendements. Et le texte, avant d'arriver en commission des affaires sociales, est passé d'abord pour avis en commission, finances.
Mmh.
Et on a pu s'apercevoir que les députés du Rassemblement national n'étaient pas présents en commission.
Mais vous voulez débattre, Carlos Martins Bilango, ou vous voulez tout simplement la suppression de cette réforme sur les retraites?
On veut la suppression avec d'abord la motion référendaire que nous avons déposée, qui sera votée lundi. Nous espérons avoir la majorité. Nous suivons de manière très, très, avec beaucoup d'attention, les premiers propos de M. Aurélien Pradier, son évolution dans le débat et ce que vont faire les Républicains. C'est important pour nous.
Mm-hmm.
On voit qu'il y a deux sons de cloche. Il y a
Éric
Ciotti et il y a le côté Aurélien Pradier.
Donc vous attendez de voir ce que font les députés de droite. Par contre, vous n'êtes pas très intéressé par ce que font les députés RN. On se souvient d'un débat télévisé la semaine dernière où Jordan Bardella a tendu la main à Mathilde Panot en lui disant « Regardez quand même, on peut voter une motion de censure ensemble. » Puis finalement, Mathilde Panot l'a envoyé sur les roses en disant « Écoutez, vous êtes gentil, mais non, on est suffisamment nombreux, on n'a pas besoin de vous. » Est-ce que c'est...
Oui, pour la motion référendaire, on n'a pas besoin d'eux. Pourquoi ça présenter? Mais maintenant, nous sommes 150 à l'Assemblée nationale, députés de la NUP, donc nous passons souvent avant eux quand il y a une motion de rejet ou une motion référendaire. S'ils veulent signer notre motion, ils peuvent la signer.
Ils peuvent la signer.
C'est le travail parlementaire. Mmh. Il y a déjà eu différents
articles. Mais c'est gênant. Est-ce qu'il y a un côté gênant du fait que le Rassemblement national, qui a également un combat social, se joigne à vous sur cette motion de censure?
Vous savez, il y a différents articles qui sont votés et qui votent en même temps que nous. Et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le travail parlementaire. Maintenant, c'est gênant quand il y a un arrangement qui se fait en amont. Là, c'est gênant. Mais dès lors où un article est présenté, où un amendement est présenté, si on vote la même chose, on vote la même chose.
Pourquoi c'est gênant? Parce qu'on ne veut pas mélanger la politique du Rassemblement National à la République de la France Insoumise?
Si Marine Le Pen dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, M. Bilango ne va pas dire « bah non, le ciel n'est pas bleu s'il est bleu ». Mais s'il y a un arrangement en amont, oui, c'est gênant. Et un arrangement en amont ne sera pas possible avec le Rassemblement National.
Parce que vous êtes à l'opposé de ce qu'il représente? Parce que
nous sommes dans ces deux visions différentes. Deux visions, voilà. Nous, la vision...
Une vision sociale qui est assez proche de ce que vous défendez.
Il faut être présent dans les combats. Ils n'étaient pas en commission finance. Et Quand on a demandé l'augmentation du SMIC au mois de juillet, ils ont refusé également. Sur différents points, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et aussi, sur le plan antisocial, ils sont avec des propos, leurs amendements, je ne les ai pas encore lus, mais on nous parle de c'est à cause des migrations sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas possible.
La France insoumise est-elle encore audible aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon est allé enregistrer une émission en Guyane avec France 2. Il a fait un score qui était digne d'un documentaire animalier. Comment est-ce que vous voyez, vous, avec la France insoumise? Est-ce que vous pensez qu'il y a un moteur aujourd'hui qui est comparable à celui qui a été dans le passé?
J'adore les animaux déjà. Oui. J'adore les animaux. Et oui, je pense qu'on est toujours un groupe moteur et moteur de la gauche. Je ne sais pas le jour exact de la diffusion, ce qu'il y avait en même temps à la télé, mais je sais que ces éléments...
J'exagère avec le documentaire animalier, mais il y a eu 1 million de personnes versus plusieurs millions lorsque c'était Emmanuel Macron qui a été face à Caroline Roux.
D'accord. Il faut savoir après les rediffusions sur YouTube, etc.
Bon, je parle pas de télé, vous voyez bien. Oui, mais... Ce que je veux dire, c'est que la NUPES a été un formidable. On est tous d'accord là-dessus.
Elle vit.
Appareil politique en juin dernier, vous avez su vraiment amener la gauche. Aujourd'hui, la NUPES est quand même moins audible. Vous avez les Verts qui sont très très forts en ce moment. Et on entend Marine Tondelier qui revient, qui resserre son discours sur la gauche radicale. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus très écouté. Vous avez eu l'affaire Quatennens. Au sein même de votre parti, comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de la France insoumise?
Moi, je Carlos pense que Biongo. Nous sommes toujours les éléments moteurs de la NUPES. Nous sommes à l'origine de cette coalition et que le groupe vit bien. Le groupe vit bien et pour moi, nous sommes toujours audibles. Et on va au-devant de différents sujets. Et il y a, comme dans tout parti politique, des phases où c'est un peu plus compliqué, mais le groupe vit bien.
Mais donc, c'est une phase un peu plus compliquée?
Je pense que cette phase est passée déjà. Comme on a parlé de l'affaire Quatennens, pour moi, la phase est passée. Et nous sommes aujourd'hui en phase combat avec le
Il est revenu d'ailleurs. Il est revenu au Parlement. Vous avez acté ce retour d'Adrien Quatennens pour vous ?
Il a une exclusion du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et ensuite, comme la sanction a été donnée de façon démocratique au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise, Adrien Quatennens est libre de vaquer à ses occupations de
et
parlementaire.
Votre opinion?
Mon opinion? Je m'en tiens à la sanction qui a été donnée par le groupe.
L'actualité, c'est aussi ce qui s'est passé au Proche-Orient ces derniers jours. 7 Bien Israéliens sûr. Tués par un Palestinien vendredi dernier, 2 autres blessés par un autre assaillant palestinien âgé de 13 ans. Quel regard portez-vous sur ces deux événements?
Vous savez, ces deux événements sont tristes et... je condamne et nous condamnons, la France a condamné aussi cette attaque terroriste. Mais il faut savoir que le Hamas a revendiqué cette attaque en termes de réponse. Et aujourd'hui, le 37e gouvernement israélien est un gouvernement ultra-orthodoxe, avec aussi des ministres d'extrême droite. Sur les 30 ministres qui sont en place dans ce gouvernement seulement... 5 femmes sont présentes. On a le ministre de la Sécurité nationale, qui est un personnage très controversé. Et comme l'a dit M. Gutiérrez de l'ONU, moi, j'ai peur aujourd'hui de l'escalade de la violence. C'est ce qui est inquiétant. Aujourd'hui, la place de la France et des parlementaires français, c'est de prôner la paix et d'avoir une issue avec les deux pays. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Et malheureusement, il y a des très mauvais signaux entre les réponses sur attaque, contre-attaque. Et vraiment, un mort côté palestinien ou un mort israélien, ça reste un mort et ça amène une terminologie. Et vous savez, dans ma circonscription, encore plus encore, parce qu'à Sarcelles, nous avons une forte communauté juive. Nous avons le petit Tel Aviv, nous avons différentes synagogues. Et on a besoin de cette paix parce que souvent, les conflits géopolitiques sont souvent transposés et ramenés à ma circonscription. Et
Il y a eu des répercussions ces derniers jours, justement?
Non, pas dans ma circonscription. On arrive vraiment à garder le vivre ensemble.
En 2014, il y a eu des émeutes. Vous en avez beaucoup entendu parler.
Bien entendu. En 2014, il y a eu des troubles. Et il faut que la France soit le pays garant de la paix et que les conflits ne soient pas transposés. Vous savez, dans ma circonscription, il y a aussi la communauté, par exemple, quand on parle de Moyen-Orient, la communauté des chrétiens d'Orient, avec le CCAF qui essaye de revendiquer et de parler de génocide assyro-chaldéen, ils font un repas le mardi 7 février, CCAF. C'est des éléments moteurs du vivre ensemble.
Vous avez parlé de ce nouveau gouvernement israélien. Est-ce que dans votre discours, je dois comprendre qu'il y a une sorte de cause à effet sur ce qui s'est passé, sur ces violences qui commencent au Proche-Orient ?
Ce n'est pas une cause à effet.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, hein ?
J'ai peur de l'escalade. Vous savez, dès lors où l'ambassadrice d'Israël, qui était à Paris, démissionne pour dire que le gouvernement en place, le nouveau gouvernement mis en place, est trop proche de la droite, ça envoie un signal.
Oui, mais enfin, de là à ce qu'il y ait une relation de cause à effet avec 7 Israéliens tués par un Palestinien.
Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que le Hamas a revendiqué cette attaque en termes de réponse à ce qui se passait auprès des Palestiniens. Et au final, comme je vous l'ai dit, comme l'ONU l'a dit, c'est l'escalade aujourd'hui.
Mais quelle solution ?
C'est ça, quelle solution ? Et en fait, quelle solution ? C'est que nous, en tant que parlementaires et politiciens, on va demander de cesser le feu, on va demander un appel au calme, comme tous les politiciens l'ont fait dans le monde. Et depuis des années, vous savez, j'ai 32 ans, et toute ma vie, j'ai toujours vu ce conflit israélo-palestinien. Et je le déplore. Toute ma vie, j'ai connu ça.
Oui, et vous avez eu des opinions différentes sur ce conflit israélo-palestinien par le passé ?
Moi, non.
Vous avez toujours eu une opinion neutre sur le conflit israélo-palestinien ?
J'ai toujours voulu la paix, bien sûr. J'ai toujours voulu la paix. Et ma parole n'a jamais été audible auparavant parce que je n'étais pas connu dans le monde politique. Mais j'ai toujours prôné la paix. Il faut toujours une issue avec deux pays.
Mais il y a deux camps. Il y a les Palestiniens et les Israéliens.
Bien sûr. Il y a aussi...
Mais vous n'apportez pas de solution pour la paix pour l'instant. Vous la souhaitez, mais vous n'apportez pas de solution.
Il y a aussi des Israéliens de gauche qui existent. Vous savez, moi, j'ai lu là, il y a 6 mois un bouquin sur la gauche israélienne. Elle existe. Elle n'est plus audible aujourd'hui.
Pourquoi ?
Difficilement, parce que c'est dans le monde et dans l'Europe, la gauche est en difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le travail de Jean-Luc Mélenchon avec le score intéressant que nous avons au présidentiel de 22%. Parce que c'est difficile aujourd'hui de prôner la paix, le social, l'humanisme, l'universalisme. C'est pas simple de battre aujourd'hui
pour ça. Vous dites, aujourd'hui je suis audible parce que je suis député. Est-ce que vous êtes toujours ami avec Nabil Koskosi ?
Oui.
Oui. Et oui. Quelle est son opinion, lui, aujourd'hui, sur ce conflit israélo-palestinien ?
Il prône toujours la paix.
Oui.
Il prône la paix. Vous savez, cette personne a eu un passage où la justice a eu à trancher sur ce sujet-là. Il a eu des fausses accusations. Et la justice a tranché. Et ce monsieur est blanchi des accusations qui ont été portées. Il faut s'en référer aussi à la justice. C'est important de croire en la justice. Parce que les fausses accusations dans les médias, c'est très facile de prendre, donner un nom, de mettre un étendard et de dire « voici le monsieur ». Et vous savez ce qui se passe après quand on fait ça ? Il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent et qui viennent et qui vont relater, diffamer, insulter parfois.
Est-ce que j'ai diffamé quoi que ce soit ?
Je ne parle pas de vous, je parle de ce qui se passe après. Et c'est ce que j'avais dit une fois à la télé, j'ai dit, en radio, j'ai dit « est-ce que certaines personnes se rendent compte ? Vous savez, vous donnez le nom d'une personne, ensuite... ça part dans les médias et c'est trop tard, c'est parti. Pourtant, la justice a tranché.
Vous me reprochez d'avoir dit le nom de...
Ouais. Pas vous, pas du tout, parce que je vous remercie même. Vous me donnez l'opportunité. Vous m'avez donné l'opportunité d'en parler et de dire, de répondre.
Chacun pourra vérifier.
Bien sûr, chacun pourra vérifier.
Ça, c'est l'avantage aujourd'hui des technologies modernes, c'est qu'on peut vérifier.
Et bien entendu, et comme je l'ai dit, il n'y a aucune condamnation sur ce monsieur.
Merci beaucoup, Carlos Martins Bilongo, d'avoir été l'invité de
Merci à vous.